Et lorsqu'on est dans la présence d'un Dieu comme celui-là, il est impossible de rester impassible. Il est impossible, mes amis, de ne rien ressentir, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit dans notre corps, il est impossible. Impossible, mes amis, de rester le même lorsqu'on interagit, lorsqu'on est absorbé, lorsqu'on est environné par la présence d'un Dieu comme celui-là. Alors réalisons, mes amis, combien il est grand, incomparable, celui qui est présent au milieu de nous. Et demandons-lui de nous parler ce matin. Demandons-lui de déposer quelque chose qui vient tout droit de son trône sur chacun de nos cœurs. Alléluia. Tous ensemble, prions pour la parole. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. C'est devant toi l'incomparable, devant toi l'inébranlable, devant toi l'admirable par excellence, que nous nous tenons au Dieu pour implorer ta grâce alors que tu t'apprêtes à nous parler au travers de ta parole et par ton serviteur. Seigneur, nous connaissons tous combien ta parole est importante, combien elle est vitale pour chacun de nous. C'est par elle que tu te révèles à chacun de nous. C'est par elle que tu te révèles à toute conscience humaine, quelle qu'elle soit. Et ce matin, nous aimerions, ô Dieu, recevoir ta parole comme étant, Seigneur, une semence de vie, une semence qui reste et demeure incorruptible. Cette semence qui seule est capable de nous transformer jour après jour, nous rendant ainsi semblables à toi. Puisses-tu en cet instant, Seigneur, utiliser ton serviteur pour pouvoir déposer cette semence dans nos cœurs. Et en même temps, puisses-tu nous donner, Seigneur, des bonnes dispositions dans chacun de nous, qui puissent nous permettre, ô Dieu, d'avoir une attention soutenue, afin que rien ne nous distraie ni ne nous éloigne de toi, que nos cœurs restent entièrement ouverts à toi, que nos âmes restent, ô Dieu, sereine, calme, attendant de recevoir ce qui vient de toi. Bénis chacun de nous et donne-nous la capacité, Seigneur, de recevoir ta parole, Seigneur, de l'intégrer à notre vie et de vivre par elle. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Une fois de plus, donc, bienvenue ici à la borne. Nous allons... Est-ce qu'il y a moyen de changer un tout petit peu? Gloire au Seigneur. C'est un peu d'améliorer la qualité. Voilà, ça commence à s'améliorer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons, sans plus tarder, nous tourner vers la parole du Seigneur. Je voudrais, une fois de plus, au risque de fatiguer certains, de revenir une fois de plus sur un des dangers qui guettent, qui menacent l'Église de Jésus-Christ, à savoir l'esprit de Jézabel. Et aujourd'hui, j'aimerais voir ensemble comment nous pouvons combattre cet esprit de séduction qui exerce de plus en plus son emprise, non seulement sur ceux que le Seigneur a mis à part pour qu'ils puissent servir comme des outils entre ses mains pour l'édification et la construction de son Église, mais comment cette Église, dans ce temps, cet esprit de manipulation, cet esprit de séduction, comment dans ce temps de la fin, eh bien, arrive à étendre son emprise sur l'Église, où qu'elle soit, et quel que soit le contexte social, économique ou autre dans lequel elle se trouve. Nous allons donc lire, relire une fois de plus, Apocalypse chapitre 2, comment donc combattre l'esprit de Jézabel. Apocalypse 2, nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite, à la pornéa, à la fornication, littéralement, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite, de sa pornéa. Je lui ai donné du temps pour se repentir, elle ne veut pas donc se repentir. Voici que je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, c'est-à-dire ses disciples. Toutes les églises connaîtront que moi je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations avec un sceptre de fer. Il le fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ou entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans ce premier semestre de l'année 2015, le Seigneur a attiré notre attention sur les différents dangers qui guettent son Église, celle qu'il bâtit par son Saint-Esprit, et ce, au moyen de sa parole, qu'est la Bible. Le Seigneur a attiré notre attention donc de manière tout à fait particulière sur les différentes menaces, et en particulier sur ces esprits séducteurs qui agissent de plus en plus, alors que nous nous approchons, mes amis, de la fin de temps, alors que l'Église est de plus en plus préparée, de plus en plus apprêtée par son esprit, afin qu'elle puisse, enfin en ce jour-là, aller rencontrer son époux, c'est-à-dire le Seigneur Jésus sur le nuée, là au milieu des saints anges. Alors que, mes amis, nous nous approchons de ce jour glorieux, l'ennemi essaye d'appuyer sur son accélérateur. L'ennemi essaye d'ouvrir de plus en plus les brèches de l'enfer afin de jeter contre l'Église, eh bien, toutes sortes de menaces, en particulier ces esprits qui agissent par la séduction, par la manipulation. Nous avons donc vu ensemble, eh bien, les dangers que représentait l'esprit de Jézabel, l'esprit des Gabata, et enfin, depuis le mois de mai, nous avons essayé d'examiner ensemble, à travers la parole de Dieu, eh bien, et au cours d'une sorte d'odyssée biblique, nous avons essayé de regarder ensemble, eh bien, les dangers que représente cet esprit contre l'Église de Jésus-Christ, mais aussi et surtout contre les responsables, et ce, quel que soit leur ministère. Ces esprits, mes amis, font partie de cette constellation démoniaque qui essaye de plus en plus, et surtout maintenant, d'arrêter de saper l'action de Dieu, d'arrêter l'œuvre de Dieu au sein de son peuple. Cet esprit, mes amis, fait des dégâts. Nous l'avons vu. Et je profite de l'occasion pour vous signaler que le séminaire, le dernier séminaire sur donc cet esprit Jézabel, va passer sur B1 à partir de demain, du 20 juillet, jusqu'au 23 juillet en soirée, voyez-vous. Et vous pourriez suivre l'entièreté du séminaire si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre cela, ou alors commander nos DVD ou nos CD ici au comptoir de littérature. Donc cet esprit agit encore aujourd'hui, mes amis. Il ne s'est pas limité à l'église de Thyatire, voyez-vous. Aujourd'hui encore, nous pouvons voir au travers des différents signes, au travers de toutes sortes de symptômes dont souffre l'Église, dont souffrent nous, nous, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, au travers de tous ces symptômes-là, nous pouvons voir, mes amis, la nature de la maladie, la nature de cette pathologie que Jézabel. Et pourtant, la Bible nous met en garde, mes amis. Les saintes écritures sont claires. Elles nous mettent en garde contre toutes sortes de pratiques, toutes sortes d'enseignements, afin que nous puissions, en tout et pour tout, développer le discernement qui nous permettra de pouvoir faire la part de choses, de pouvoir discerner ce qui vient de Dieu et de ce qui vient du diable. Et croyez-moi, lorsque l'ennemi veut nous distraire, eh bien, il va habiller le mensonge de manière à semer la confusion en nous. C'est ainsi que beaucoup se laissent avoir, tombent facilement dans le filet de tous ces esprits séducteurs. Ils ne se rendent pas compte, car nous avons affaire à une puissance de séduction incroyable. Nous avons affaire à des forces de manipulation, et si nous ne sommes pas bien vertébrés, bibliquement parlant, si nous n'avons pas le discernement requis, qui que nous soyons, quel que soit le nombre d'années dans le ministère, quelles que soient nos expériences avec lui, quelle que soit, mes amis, la spiritualité de notre assemblée, eh bien, nous finirions par être des victimes collatérales ou des victimes directes de cet esprit, à savoir l'esprit de Jézabel. La Bible nous met en garde, la Bible nous avertit. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Il est donc de notre devoir de pouvoir sonner de la trompette, afin que par cette trompette de la parole de Dieu, eh bien, les consciences qui dorment puissent se réveiller. Alléluia. Que tous ceux qui sont tombés dans cette toile que Jézabel a tissée autour de leur vie, et qui a fini par en faire des esclaves, que tout cela, entendant, mes amis, le son de la trompette, entendant la parole de Dieu, puissent se réveiller, sortir de leur léthargie, de leur torpeur, et retrouver de nouveau la joie qu'il y a à être dans le Seigneur et à marcher selon sa parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, je disais que la Bible nous met en garde. Paul, un des hommes que le Seigneur a utilisé pour nous laisser des révélations qui permettent à son Église de connaître son Sauveur, son Seigneur, eh bien, cet homme-là, conduit par le Saint-Esprit, alors qu'il était en route vers Jérusalem, s'est arrêté à Milet, et là, il fait venir les anciens, ceux que le Saint-Esprit avait établis comme évêques sur l'Église d'Éphèse. Éphèse était une ville qui avait fait l'objet, mes amis, d'une visitation toute particulière de la part de l'Esprit de Dieu. Paul est arrivé dans cette ville qui était pratiquement entre les mains de toutes sortes des divinités païennes et par conséquent, une ville manipulée par des esprits démoniaques. Il est arrivé, mes amis, avec Christ et il a prêché la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a accompli des miracles extraordinaires au travers de Paul dans cette ville d'Éphèse. Il y a eu des conversions. Il passait son temps à aller de synagogue en synagogue pour parler avec les Juifs. Voyez-vous? Et finalement, Dieu lui a fait la grâce de trouver un lieu. Et la Bible nous dit, pendant 2 ans, cet homme a prêché dans l'école d'un certain Tyrannus, prêchant la parole de Dieu, mettant le peuple de Dieu en garde. Et voilà, alors qu'il allait vers Jérusalem, il fait venir ses responsables, voyez-vous, pour les mettre en garde, voyez-vous, pour les avertir des dangers qui s'approchaient lentement mais sûrement, voyez-vous. Quelle était la raison de cette mise en garde? Écoutez ce qu'il dit aux anciens, aux évêques, c'est-à-dire aux surveillants, ceux que Dieu avait placés comme surveillants sur l'église, son église, là à Éphèse. La raison de cette mise en garde, il leur dit ceci, je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups cruels, des loups féroces. Mes amis, des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et que du milieu de vous s'élèveront des hommes qui prononceront des paroles impies, des paroles pernicieuses, des paroles blasphématoires pour entraîner les disciples après eux dans leur séduction, dans leur perdition. Voyez-vous? Regardez la source du danger. D'abord, il dit, des loups viendront et s'introduiront. C'est donc des gens de l'extérieur qui viendront et qui finiront par s'introduire et par se fondre dans l'Église, voyez-vous, en ayant pris la peau de brebis pour ne pas être reconnus comme étant de loups ravisseurs. Donc, c'est des dangers venant de l'extérieur, de loups, qui finiront par s'introduire parmi vous et par faire toutes sortes de dégâts. Voilà la première mise en garde. Voilà le premier avertissement, frères et sœurs. Prenez garde à vous-même, dit-il. Non seulement à vous-même, mais aussi prenez garde au troupeau du Seigneur, troupeau sur lequel il vous a établi. Quel que soit notre ministère, nous ne devons jamais oublier que c'est lui qui nous a établis sur son troupeau. Et que tout en étant berger du troupeau, nous sommes aussi brebis du troupeau. Alléluia. Car in fine, celui qui reste et demeure, le berger divin, le fait qui nous a établi comme ministre, qui nous a établi comme serviteur, ne veut pas dire que nous devenons spécial, pas du tout, que nous prenons sa place, non. Nous sommes simplement des serviteurs. Alléluia. Donc, de loups allaient s'introduire dans la bergerie. La deuxième chose, de leur propre rang, des hommes allaient se lever pour enseigner des choses pernicieuses, des choses impies, des choses blasphématoires, des choses, eh bien, qui perturberont les chrétiens au risque de les amener, eh bien, à abandonner leur foi et à suivre tous ces faux serviteurs, ou du moins ces gens qui avaient été eux-mêmes gagnés par la séduction. Voilà donc les dangers, voyez-vous. Et par rapport à ces dangers, il insiste. Veillez sur vous-même, vous les responsables, vous les serviteurs, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Veillez sur vous-même. Donc c'est de la responsabilité de tout serviteur de Dieu, de toute servante de Dieu, de veiller sur lui-même. Et puis ensuite, il dit veillez sur le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi. Et pour clore le tout, il le recommande à Dieu. Car il sait qu'il n'y a que Dieu qui peut garder, qui peut préserver, qui peut protéger les responsables de l'Église contre toute attaque extérieure, contre tout ce loup féroce et cruel des ténèbres. Et puis ensuite, non seulement il le recommande à Dieu, mais il le recommande également à la parole de sa grâce, qui, ajoute-t-il, seul a la puissance de les édifier. Alléluia. Qui seul a la puissance, mes amis, de les rendre sages à salut. Qui seul est capable de leur donner la maturité suffisante pour pouvoir discerner ce qui vient de la séduction de ce qui vient véritablement de Dieu. Et ce, quelle que soit la forme. Alléluia. Tout ceci se trouve dans Actes chapitre 20. Voyez-vous, 28 à 32, où vous pourriez trouver ce récit. Mise en garde. Et quelle a été la réaction de ce responsable? Comment l'église d'Éphèse avait-elle réagi malgré cette mise en garde? Eh bien, si vous regardez aujourd'hui à la ville d'Éphèse, vous verrez que cette ville se trouve aujourd'hui dans un pays musulman. Si vous allez à Éphèse, vous ne trouverez que des vestiges du passé chrétien. Voyez, l'église a disparu. Malgré le miracle que le Seigneur avait accompli dans cette ville, n'est-ce pas? L'Église a été emportée, malgré la sévère mise en garde contre cette Église, contre ses serviteurs. Cette Église a disparu, voyez-vous. Eh bien, qu'en est-il de l'Église de Thyatire, l'Église que nous venons dont il est question dans le passage que nous venons de lire. Eh bien, quand vous regardez, ben vous verrez que c'était aussi une église qui marchait très bien. Le Seigneur lui-même reconnaît, voyez-vous, le Seigneur lui-même loue cette église. Il dit, je connais tes œuvres. Donc c'était une église qui accomplissait des œuvres. Et c'était des œuvres qui étaient conformes à la volonté de Dieu. C'était pas une église stérile, voyez-vous, c'était une église qui était efficace dans des choses qu'elle accomplissait et des choses en rapport avec la volonté de Dieu. Il dit, je connais ton amour. Oui, l'amour régnait au sein de cette église, alléluia. L'amour fraternel, l'amour envers le Seigneur. Il y avait donc des choses positives dans cette église-là. Non seulement je connais ton amour, je connais ta foi. Donc c'était une église au sein de laquelle il y avait des gens qui continuaient à marcher par la foi, malgré un climat qui était de plus en plus ionisé par la présence de l'esprit de Jézabel. Et il continue, je connais ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Alléluia. Eh bien, si, comme je l'avais souligné une fois, si le Seigneur s'était arrêté là et qu'il nous aurait demandé de coter cette église, nous lui aurons donné combien? 10, hein? Ben oui, une église qui marche dans la foi, qui marche dans l'amour, qui persévère malgré un contexte d'hostilité. Une église qui abonde en œuvre de grâce, en œuvre qui glorifie le Seigneur. Mais cependant, il y a un hic. Au verset 20, le Seigneur dit, c'est que j'ai contre toi. Sur ce tableau-là, qui paraissait a priori très blanc, eh bien le Seigneur pointe une tache noire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs, les conduire à la fornication, les amener à manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire les amener à s'asseoir à la même table que les démons. Le Seigneur ne s'adresse pas, mes amis, à un mouvement sectaire, à un mouvement ésotérique ou je ne sais pas quoi, il s'adresse à son église, oui ou non? Donc, malgré la présence dans cette église des hommes et des femmes qui, eux, étaient efficaces, marchaient dans la foi, etc., il y a eu dans la même église, eh bien, Jézabel, cette femme qui se disait prophétesse, qui a fini par sa séduction, par sa personnalité, forte personnalité, eh bien, arriver à avoir de l'ascendance sur les serviteurs, au point de les séduire, de les corrompre sur le plan de la connaissance de la parole de Dieu et de les entraîner dans cette voie de l'inconduite, cette voie de l'idolâtrie, cette voie de l'infidélité, d'abord envers le Seigneur et puis ensuite envers son Église. Mes amis, regardez comment, malgré les choses positives qu'il y avait dans cette Église de Thyatire, comment cette louve des ténèbres, comment cette diva cruelle, féroce, que Jézabel était arrivée à s'introduire dans la bergerie de Dieu, là à Thyatire. Comment ce renard, très rusé, était arrivé, mes amis, à s'introduire dans la basse-cour du Seigneur. Eh bien, aujourd'hui encore, frères et sœurs, aucune église n'est à l'abri de cette puissance de séduction. Aucune église n'est assez spirituelle, assez forte, assez, grande, pour être invulnérable, pas du tout. Nous sommes tous concernés par cette séduction. Car Jézabel rôde, voyez-vous. Jézabel essaye par tous les moyens de nous distraire. Jézabel essaye de nous mettre les bâtons dans les roues. Essaye d'anesthésier. Voyez-vous, l'œuvre de Dieu au milieu de nous essaye par tous les moyens de nous entraîner loin du Seigneur. Cette situation était tellement grave aux yeux du Seigneur, voyez-vous, que le Seigneur va prendre presque 12 versets pour parler à l'église de Thyatire. J'en avais déjà parlé. Si vous faites le total de ces sept églises, eh bien, l'église de Thyatire, qu'on pour souligner la gravité de sa situation, l'église de Thyatire, eh bien, pour l'église de Thyatire, il y a 12 versets. 12 versets qui reprennent, mes amis, le reproche et les paroles du Seigneur adressées à cette église. Alors que pour les autres, par exemple pour Éphèse, eh bien, il n'y a que 7 versets. Pour Smyrne, enfin, Thyatire 12, Laodicée 9, église d'Éphèse et de Philadelphie, 7 versets, Pergame et Sardes, 6 versets, et enfin, l'église de Smyrne, à peine 4 versets. C'est donc Thyatire qui est en tête. Tout cela met en évidence la gravité, frères et sœurs, la gravité de la situation. Et croyez-moi, cet esprit de Jézabel, qui agissait déjà à l'époque d'Élie, voyez-vous, à l'époque d'Élisée, cet esprit que nous trouvons dans le Nouveau Testament, à l'époque de Jean-Baptiste, qui a manipulé cette femme Hérodiade, qui va finir par demander à son mari, et via sa fille, qu'on lui donne, qu'on lui apporte sur un plateau, la tête du prophète Jean-Baptiste. Or, à propos de Jean-Baptiste, le Seigneur a dit que c'était lui, l'Élie, qui devait venir. Cela ne veut pas dire que Jean-Baptiste était la réincarnation d'Élie, attention. Parce qu'aujourd'hui, la tendance est au syncrétisme. On trouve de prédicateurs dans l'Église de Jésus qui essayent un tout petit peu d'aller chercher des éléments du mysticisme païen, des éléments ésotériques, pour essayer de mélanger avec la parole de Dieu afin d'impressionner les gens. Voyez? Parce qu'ils pensent que parler de l'amour de Dieu tout le temps, eh ben, ça finit par fatiguer les gens. Alors il faut un peu performer, passez-moi l'expression, il faut un peu quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors ils vont lire des livres de mysticisme, et des livres d'astrologie, eh bien ils enlèvent simplement les mots qu'ils remplacent par des termes bibliques. Mais le contenu reste le même, voyez-vous. Et ceci est un vrai danger, voyez, un vrai danger. Cet esprit-là, à l'époque du Nouveau Testament, nous le retrouvons là, dans le livre de l'Apocalypse. Et croyez-moi, aujourd'hui, eh bien, cet esprit n'a pas pris congé, n'a pas pris sa retraite. Cet esprit est encore à l'œuvre. Nous le voyons. Qu'est-ce qui nous pousse à le dire? Eh bien, c'est simplement à partir de certains signes. Car, comme vous le savez, les symptômes révèlent la nature de la maladie, n'est-ce pas? Et lorsque nous étudions, eh bien, la manière d'agir de Jézabel dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et en particulier la manière dont, eh bien, cet esprit se manifestait à Thyatire, nous pouvons alors, à la lumière de tout cela, eh bien, voir comment cet esprit agit aujourd'hui, que ce soit vis-à-vis de ceux qui sont appelés à diriger l'Église du Seigneur, à prêcher, à assumer une quelconque vocation, un quelconque ministère, ou alors, comment une Église qui prétend être dans la vérité, comment elle peut être manipulée par Jézabel. Il y a donc des signes, il y a des symptômes, et nous n'avons pas le temps de passer en revue tous ces signes-là. Eh bien, mais simplement sachez qu'il y a de plus en plus auprès de nous, ou dans le chef de nous autres, prédicateurs de la parole, dans le chef de nous autres, pasteurs, prophètes ou que sais-je, il y a de plus en plus, mes amis, cette quête de gloire, cette quête de notoriété, n'est-ce pas? Cette quête de célébrité. On veut absolument se mettre en évidence. On essaye d'utiliser tous les moyens pour que nous soyons reconnus comme étant le plus grand pasteur, le plus grand prophète, le plus grand serviteur, voyez-vous, cette quête-là, mes amis, est déjà un signe, car le ministère ne devrait pas être utilisé comme un moyen de devenir star. Or, aujourd'hui, nous assistons à la starisation du pasteur, du prophète, que sais-je. Voyez ? Le ministère, eh bien, devient un moyen pour pouvoir se mettre en évidence. Il y a des gens qui parlent plus de leur prophète que du Seigneur Jésus. C'est anormal. Là, l'influence de Jézabel est présente. Alléluia. Quand on voit que les apôtres eux-mêmes ont tout fait pour que les regards de l'Église restent constamment fixés sur Jésus, nous, aujourd'hui, on essaie d'attirer l'attention des gens vers nous. On veut qu'on nous reconnaisse comme étant des pasteurs qui font des miracles. Comme je l'ai dit une fois, dites-moi, quelle est la raison qui pousse certains à filmer des scènes de gens qui tombent, de gens qui sont là par terre, voyez-vous, et à mettre ça sur Internet? Moi, je voudrais savoir, d'abord, il faut respecter les gens. Oui ou non? Nous devons respecter la dignité des gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un est démonisé qu'il n'a plus de valeur aux yeux de Dieu. Voyez-vous? Le Seigneur lui-même n'a jamais méprisé les démonisés. Il a chassé le démon, il a réhabilité les personnes, et il les a renvoyées dans leur famille. Alléluia! Quelle est la raison? Pourquoi? Pourquoi tout le monde doit savoir? Le monde entier doit savoir que ce jour-là, lorsque j'ai prié, il y a eu 100 personnes qui sont tombées. Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. Jésus n'en a pas besoin. Donc il n'a pas besoin que tu mettes ça sur la toile pour qu'il voit, parce que lui, il est omniprésent. Alléluia! Lui, il voit tout. Alors, c'est pour quelle raison? Eh bien, il y a cette quête inavouée dans la plupart des cas de célébrité, de notoriété, de gloire, voyez-vous. Ça, c'est déjà un signe. Il y a la manipulation. Combien on se retrouve dans des problèmes ici, pour ne parler que la ville de Kinshasa, à cause de fausses prophéties, à cause de fausses visions. Ils ont été manipulés. Il y en a qui ont donné leur parcelle, et par après, ils ont regretté. Eh bien, dès lors qu'il y a le regret, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Quand on donne à Dieu, on le donne dans la joie. Alléluia. On ne donne pas parce que quelqu'un vient, Dieu a dit, la prophétie est sortie, pas du tout. Oui, Dieu peut parler par ce canal, il n'y a pas de problème. Mais dans la plupart des cas, c'est que tous ces soi-disant prophètes, ces soi-disant serviteurs de Dieu, eh bien, sont animés par l'esprit de lucre. Cet esprit qui pousse les gens à courir après le profit, et ce avec avidité. L'argent a par tous les moyens. On organise des séminaires non pas pour nourrir les gens, mais pour avoir un peu d'argent pour aller à gauche, à droite. Voyez? On organise telle manifestation à coup de publicité, tout cela pour que les gens viennent. Alors, on table. Elle dit, bon, dans cette salle, si nous avons 10 000 personnes et que chacun donne 1 000 francs, ça ferait combien? Voilà. On table déjà là-dessus. Mais la motivation est impure. Voyez-vous? Nous ne devrions pas agir de cette manière. Nous devrions organiser des réunions pour permettre au Seigneur de visiter son peuple. Donner l'occasion au Seigneur de bénir son peuple. Alléluia. Pour l'Église, c'est la même chose. Une Église est manipulée par Jézabel lorsque cette Église-là a de plus en plus les yeux sur son conducteur, sur la prophétesse. C'est elle qui fait la loi. C'est elle qui lie les gens dans le mariage, qui dénoue le mariage selon sa volonté, selon son bon vouloir. Une Église qui reste plus attaché aux enseignements de son responsable, au lieu d'amener l'Église à rester attachée à la Bible, c'est une Église qui doit faire très attention. Même les affermissements que nous donnons ne sont que des moyens pour permettre aux gens de grandir et de les amener à découvrir davantage ce livre, mes amis, que la Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais dès lors que les gens commencent à attacher plus d'importance à des brochures, à des enseignements, je ne sais, sur la prospérité, sur le combat spirituel, à les lire, et puis à les, à essayer de les mémoriser. Ça, mes amis, eh bien, ça ne peut pas venir de Dieu. Car la Bible nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, utile pour avertir, utile pour construire. Même les affermissements, c'est pour pousser les gens à mieux aimer la Bible, à mieux la connaître. Alléluia. On prépare des enseignements un peu spéciaux, dans lesquels, dans la plupart des cas, on retrouve des éléments des éléments qui viennent du mysticisme païen, des éléments ésotériques. Voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, cela. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Le Seigneur utilise une expression très forte. Les profondeurs de Satan. Voyez, ça va loin. Nous sommes dans l'église. Profondeur de Satan. Vous pouvez venir dans ces lieux et repartir sans avoir reçu quelque chose. Ou il y en a même peut-être que vous venez dans ces lieux pour jouer avec le feu. Vous êtes là, vous pensez que avec votre aiguille, pendant que je prêche, vous êtes en train de faire ça, vous allez m'avoir l'okuta. Vous êtes en train de vous piquer. Vous jouez avec le feu. Vous êtes en train de jouer avec l'acupuncture démoniaque. Vous pensez, vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils vous jettent le sort, hein, en prenant un morceau de bois ou une poupée qu'ils piquent. Et dit à Pasteur Juan, quand? C'est faux. Il n'y a rien. Vous vous piquez vous-même. Le diable vous a aveuglé et vous conduit à la mort. Car la malédiction, l'occultisme, la magie n'a pas d'effet sur tous ceux qui sont en Jésus. Ce n'est pas ça qui va nous ôter le sommeil. Non! Vous venez, pendant que je parle, vous avez un truc, vous vous asseyez, vous pensez que vous m'écrasez, l'okuta. Si Dieu est pour nous, nous l'avons chanté. Qui nous arrêtera? Si Dieu est avec nous, qui nous résistera? Peut-être que tu es venu avec ces idées-là. S'il te plaît, repens-toi. Et repart avec la paix dans le cœur, après avoir reçu le Seigneur Jésus. Comment combattre cet esprit-là? Nous l'avons vu, mes amis, comme à l'époque d'Élisée, et comme à l'époque de Jean-Baptiste, comme à l'époque de l'église de Thyatire, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de formule magique. Qu'est-ce que le Seigneur a fait par rapport à la problématique Jézabel à l'époque de Délie, oui, il a suscité un homme, nous l'avons vu, sur qui il a fait reposer son onction, alléluia. L'onction de Dieu est descendue sur lui. Il a suscité Jéhu, il a fait reposer son onction sur lui, alléluia. Et ce sont ces deux hommes-là qui vont, mes amis, aller combattre cet esprit et permettre à ce que le peuple de Dieu, enfin, soit libéré de la séduction, soit libéré de la manipulation des faux prophètes, et qu'il revienne à son Dieu. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, nous avons besoin de cette onction-là. Mais non, je sais que s'il y a un mot qui entraîne beaucoup, beaucoup de réactions diverses, s'il y a un mot dont le sens, eh bien, est de plus en plus mutilé. Voyez-vous, c'est bien le mot onction. Chacun met dans ce mot-là tout ce qu'il veut. Et c'est ainsi qu'il y a des clichés qui se sont développés parmi les gens dans certaines églises, des clichés, voyez-vous, pour qu'il y ait l'onction, il faut qu'il y ait un tel signe physique. Oui ou non? Pour qu'il y ait onction, il faut qu'il y ait agitation. Il faut qu'il y ait trémoussement. Il faut qu'il y ait beaucoup de bruit. Il faut qu'il y ait ceci ou cela. Mes amis, on ne peut pas mettre Dieu dans une catégorie quelle qu'elle soit. Alléluia. Eh bien, Dieu, pour mettre fin au règne de Jézabel, pour briser la séduction de cet esprit à cette époque-là, il va susciter un homme dont le nom à lui seul est déjà en soi un message.
Alléluia.
Élie, ou de l'hébreu Eliaou, qui veut dire « le Seigneur est mon Dieu ».
Amen.
Le Seigneur est mon Dieu. Voilà, mes amis, le secret de cet homme. Si Élie a affronté Jézabel, si Élie a confondu les prophètes de Baal, si Élie a marché de manière extraordinaire, c'est parce que, mes amis, son nom même est déjà le secret de sa vie, mais aussi ce que la Bible nous dit, ce que lui-même dit, ou nous dit dans la parole de Dieu, lorsqu'il dit à Acab, le Seigneur devant qui je me tiens, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, eh bien, avec tout ça, nous voyons que le secret de l'onction d'Élie, eh bien, ne se trouvait pas dans des expériences mystiques induites par telle ou telle autre croyance. Voyez, l'onction qui est descendue sur Élie ne lui a pas été communiquée au travers d'un prophète quel qu'il soit, au travers d'un sacrificateur quel qu'il soit. Cette onction, mes amis, eh bien, a été le résultat de sa marche, de sa consécration vis-à-vis du Seigneur.
Alléluia.
Élie était un homme qui entretenait une relation d'intimité profonde avec le Seigneur. Lui-même le dit, le Seigneur devant qui je me tiens.
Alléluia.
Il utilise un présent. Donc ceci nous montre que pour lui, eh bien, entrer dans la présence du Seigneur, se tenir devant son Dieu, interagir avec lui, s'attarder dans sa présence, faisait partie de sa vie. Alléluia. Donc voilà la première chose. Élie était un homme qui jouissait d'une grande intimité, une grande et profonde proximité avec son Dieu. Et si nous voulons avoir cette onction, ne courons pas ça et là, mes amis. Et nous ne devrions pas courir après cette onction, car le problème c'est celui-là. Je l'ai souligné, et j'aimerais revenir là-dessus. Lorsqu'on te donne une prophétie, lorsque quelqu'un te dit « Dieu m'a dit que ceci, cela va arriver », mon frère et ma sœur, ne te lève pas pour commencer à courir après la prophétie. C'est ça l'erreur. Si Dieu me donne une prophétie, eh ben je le loue, je le bénis, alléluia. Mais mes yeux doivent toujours rester fixés sur lui et sur sa parole. Et si je continue à marcher avec lui, cette prophétie, si elle vient de lui, finira par gloire au Seigneur. Alors il y en a, Dieu m'a dit, je dois devenir ceci. Alors on prend 40 jours. La prophétie n'est pas là pour qu'elle puisse monopoliser notre attention. Voyez-vous, jamais. Quand on a dit à Paul, lorsque le prophète Agabus a pris sa ceinture, s'est lié les mains et tout ça, et puis il dit prophétiquement, l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié de la même manière. Les autres frères ont réagi, oh, frère Paul n'y va pas et tout ça. Qu'est-ce que Paul a fait? Il savait très bien que c'était dans la volonté de Dieu qu'il aille jusqu'à Jérusalem. Donc cette prophétie n'était pas pour lui dire, ah, je vais prier pour que cela ne m'arrive pas. De toute façon, Dieu a dit non, il sera lié. C'est l'Esprit qui dit, hein. Mais Paul ne s'est pas laissé distraire. Paul a continué. Et effectivement, cela va s'avérer exact. Donc, Dieu lui avait donné cette prophétie, non pas pour que ça change la direction que le Seigneur avait tracée pour lui, mais c'était simplement pour le préparer. Alléluia. Il a continué à aller, effectivement, cela est arrivé, mais il savait. Cela ne l'a pas perturbé. Or, aujourd'hui, Dieu m'a dit que je vais épouser telle sœur. Dans ce domaine-là, ce n'est pas la prophétie qui compte. Voyez? Et dans la plupart des cas, c'est simplement une convoitise qui est là. Voyez, à force de s'asseoir devant une sœur, à force de la voir tout le temps chanter, on finit par fantasmer sur elle. Ouais. eh bien, on ne dort plus. Quand on ferme les yeux, elle est là. Et puis après, il dit, Dieu m'a dit. Et le diable, connaissant ça, peut t'envoyer quelqu'un qui le manipule. Et la personne dit, non, mais j'étais vu avec cette sœur. Dit, ah, Seigneur, merci. Attention. Donc, l'Église doit rechercher une grande communion avec le Seigneur. Alléluia. Car c'est seulement de cette manière que l'Église finira par entrer dans cette onction Eliyahu. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous pouvez faire 40 jours de jeûne et de prière, mais le faire simplement pour vous mettre en valeur. Oui ou non? Faire cela simplement pour que tout le monde sache que vous jeûnez plus que tout le monde. Et ici, à Kinshasa, et c'est ce qui frappe, hein, eh bien, les gens, peut-être innocemment, eh bien, parlent trop vite de ce qu'ils font. Vous avez l'impression qu'eux, ils ont le monopole du jeûne, ils ont le monopole de la prière. Voyez? Ah, Dieu m'a conduit dans 10 jours de prière. Ok, mais pourquoi tout le monde doit le savoir? Certes, on peut le partager avec un frère, peut-être lui demander de vous soutenir. Mais quand vous commencez à le publier, à le claironner partout, afin que tout le monde sache, dans ce cas, c'est autre chose. Les choses de Dieu se font en... Que ce que ta main gauche fait ne soit pas connu de ta main droite. Alléluia. Donc, nous devons chercher absolument cette onction. Donc, la relation. Mais nous l'avons vu également. Et la Bible est très claire. Nous devons restaurer l'autel. Car il n'y a pas de communion avec le Seigneur. Il n'y a pas de feu qui descende sur nous si nous ne restaurons pas l'autel. Si nous ne travaillons pas l'autel sur lequel le Seigneur est censé envoyer son feu. Cet autel-là, eh bien, ce n'est pas en dehors de nous. Cet autel se trouve en... Alors, ce n'est que la parole de Dieu qui peut restaurer cet autel. Plus tu obéis à la parole, plus tu dresses, tu rétablis l'autel, plus tu donnes l'occasion au Seigneur de déverser son feu sur cet autel. Car aujourd'hui, comme hier, nous avons besoin du feu de l'Esprit pour détruire les œuvres de Jézabel. Pour détruire, mes amis, cette séduction. Alléluia. Et enfin, Jéhu va être celui aussi qui va contribuer, mes amis, à la destruction de la dynastie d'Akab, de la famille d'Akab. Voyez-vous, il va exécuter la parole de Dieu. Et quelquefois, il va même aller au-delà. Voyez, il a eu un zèle extraordinaire, mais il avait été loin. Et comme lui, mes amis, nous l'avons vu. Pour comprendre son onction, il faut regarder à l'étymologie de son nom. Jéhu, qui n'est autre que Yéhou. Yéhou. Voyez? Et Yéhou veut dire celui le Seigneur. Alléluia. Donc, si nous voulons que notre Église soit une Église qui baigne dans l'onction, qui brise l'influence, qui brise la séduction de Jézabel, nous n'avons pas d'autre choix, mes amis, que de mener de vie qui toutes se tournent vers qui? Vers le Seigneur. C'est lui le Seigneur, pas un homme. Moi, je ne suis qu'un homme, avec mes limites, avec mes faiblesses. Voyez-vous, posez vos regards sur moi. Eh bien, non seulement vous vous rendriez un très mauvais service, mais vous me rendrez également un mauvais service. Parce que moi aussi, j'ai besoin de lui. Amen. Alléluia. Donc, Yéhou, eh bien, nous devons nous comporter. L'Église doit se comporter comme un simple panneau d'indication qui montre la direction comme nous l'avons vu. Alléluia. Et la direction, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire la Bible, plutôt l'Église dans sa manière d'être et de vivre, devrait susciter dans la vie de ses membres, mais aussi à l'extérieur, eh bien, ce désir de se tourner vers la parole de Dieu. Alléluia. Et la destination, c'est Jésus. Et Jésus seul, alléluia. Car c'est lui le Seigneur, celui qu'on doit voir. Pas un homme, pas un bishop, pas un apôtre, pas un prophète, même si ce sont des ministères que le Seigneur a promis à l'Église. Tout cela, comme a dit Paul, eh bien, tout cela, prophète, apôtre, ne sont que des serviteurs que le Seigneur utilise pour l'édification de son corps, alléluia. Et chacun le fait selon ce qu'il a reçu. Il n'y a aucun homme qui peut dire, moi j'ai tout reçu de Dieu. Ça serait de l'orgueil. Chacun a reçu quelque part. C'est comme ça qu'il faut éviter absolument de comparer les serviteurs de Dieu. En disant, lui n'a pas d'onction parce qu'il n'a pas fait ceci comme l'autre le fait. S'il le fait, ben, la Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Oui ou non? Il le fait parce qu'il a reçu. L'autre aussi, il le fait parce qu'il a. Donc, ça ne sert à rien de comparer. Apollos avait reçu. Avec ce qu'il avait reçu, il a contribué à l'édification de l'église de Corinthe. Paul avait aussi reçu, comme Paul lui-même le dit. L'un a semé, l'autre a arrosé. Et ce n'est ni celui qui sème, ni celui qui arrose qui est quelque chose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Alors, frères et sœurs, si nous voulons une vie qui glorifie le Seigneur, qui met en déroute l'esprit de Jézabel, eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que de chercher une intimité de plus en plus grande. Arrêtons de courir après le sensationnel. Arrêtons de courir après tel ou tel autre enseignement qui serait un enseignement spécial. Il y en a même qui parlent de la nouvelle onction. Tout cela, c'est la séduction. Vous risquez de tout laisser, même votre peau. Il y en a qui ont suivi cette mouvance. Quand ils se sont rendus compte, c'était trop tard. Même les cheveux sont restés. Oui. Donc, l'ennemi est sans pitié. Vous risquez de repartir de là simplement avec votre pagne. La maison passe. Votre travail passe. Vos affaires passent. Vous voyez, c'est comme ça. Jézabel est toujours là, il rôde, alors que le Seigneur nous aide. Alléluia. Nous allons incliner notre tête dans la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Une fois de plus, tu nous permets, ô Dieu, de nous tourner vers toi pour réaliser combien cet esprit reste et demeure une véritable menace pour nos vies, pour nos familles, pour nos foyers, mais aussi pour nos églises. Que faire, Seigneur, pour être à l'abri de toute cette séduction, de toute cette manipulation, de toutes ces faux prophéties, de toutes ces intimidations? Que faire, Seigneur, ô Dieu, pour éviter de créer un climat qui permette à Jézabel de faire des ravages parmi ton peuple? Que faire si ce n'est que ce que tu attends de chacun de nous, ce que tu attends de toute église, à savoir faire de toi la priorité de tout, rechercher cette intimité, entrer dans cette onction prophétique d'Eliaou, cette onction qui est le résultat d'une vie entièrement consacrée à toi, redécouvrir la joie, le bonheur qu'il y a à entrer régulièrement dans ta présence, avoir un moment de communion régulier avec toi. Mais nous voulons également redresser l'autel de nos vies, non pas avec des faux enseignements, non pas avec des hérésies de tout genre, mais à partir de la parole de Dieu, comme ton serviteur l'a fait, Élie, là sur le mont Carmel. Il a redressé, il a rétabli l'autel selon ta parole, et tu as envoyé le feu. Et le feu a confondu tous ces faux prophètes, comme j'ai eu. Donne-nous d'avoir des vies qui ne cherchent pas au Dieu à détourner les regards de gens pour les tourner vers nous, mais plutôt des vies qui, par leur manière d'être, par leur enseignement, se comportent comme des panneaux d'indication qui amènent, qui conduisent les gens à toi et à toi seul. Que Jésus, tu restes et demeures notre priorité. Que la Bible soit notre seule règle en matière de foi, en matière de révélation, en matière de morale. Oh, épargne-nous, Seigneur, de la séduction. Tu bénis également ce moment consacré, Seigneur, aux offrandes, aux dîmes. Que tout cet argent nous aide, ô Seigneur, à continuer à entretenir ton œuvre et à la faire avancer, et ce, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci.